Et géopolitique européenne, ce matin, donc on regarde avec vous du côté des Balkans orientaux.
Effectivement, Hélène, à l'heure où l'Union européenne propose d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine, il est important de dresser le bilan de ces États balkaniques orientaux. Je suis en compagnie d'Antoine Colonna, le rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs Actuelles. Antoine Colonna, Bruxelles donne l'impression de vouloir ouvrir la porte, tout en regardant par le Judas quand même.
Effectivement, on a l'impression que vis-à-vis d'eux, l'Union européenne est dans une forme d'expectative. Avec un pied, elle accélère et puis avec la main, elle freine en même temps. Parce qu'on voit déjà des pays qui sont des pays de l'ex-Europe orientale qui ont eu du mal à s'intégrer finalement dans les réformes au modèle européen. Pas forcément de leur faute, mais parce que le modèle est très dur à
Écoutez, prenons le cas de la Macédoine. Aujourd'hui, la FIROM plutôt, puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de faire machine arrière. Ils vont changer de nom, ils vont changer d'appellation. Ils sont en train de tout débaptiser de Philippe de Macédoine Alexandre, tout simplement face à la courageuse réaction des Grecs en disant « Attendez, vous étiez là au 7e siècle, on était là avant, donc la Macédoine, c'est plutôt nous. »
Voilà, les Grecs ont eu un espèce de grand sursaut là, début février pour pousser cette fameuse ancienne république yougoslave qui a pris le nom de Macédoine au moment de l'explosion de la Yougoslavie. Bon, tout ça, c'est fait pour rentrer dans l'Europe, donc les Macédoniens sont prêts à tout pour rentrer dans l'Europe.
Et si on prend le cas du Kosovo, on peut dire que là, nous sommes face à une situation apocalyptique. C'est quasiment un non-État, une base américaine très influente, un fondamentalisme islamiste qui déséquilibre toute la région.
Alors le Kosovo, c'est assez terrible parce que aujourd'hui vous avez un État qui est quasiment de type mafieux, qui n'a aucune autonomie, dont la jeunesse fuit par wagon entier dès qu'elle peut la petite république. C'est un vrai problème pour l'entrée dans l'Union européenne de cette région.
Et c'est le cas aussi, par exemple, de la Bosnie-Herzégovine, la conclusion des accords de Dayton. Cette Bosnie-Herzégovine, on a trois premiers ministres, un catholique, un orthodoxe, un musulman, 200 ministres, donc situation ingérable, avec une partie du territoire qui devrait appartenir à la Serbie, l'autre à la Croatie. Là aussi, on est dans une impasse.
Alors, c'est bien pire sans doute en Bosnie-Herzégovine, parce qu'il y a aujourd'hui un retour des combattants de Daesh qui viennent d'Irak et de Syrie, ce qui peut poser un problème énorme. Il y a une tension, évidemment, avec la République Serbska, qui est l'enclave serbe, qui demande un référendum pour sortir de la République de Bosnie-Herzégovine. Donc on le voit bien, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit la Macédoine, le Kosovo et évidemment la Bosnie-Herzégovine, à chaque fois le même problème de frontières, le même problème de gestion des problèmes quotidiens des populations, de l'administration, de la corruption. Donc c'est très difficile pour l'Europe d'intégrer cet espace.
Et c'est aussi le cas du Monténégro. C'est quand même un État qui possède l'euro, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'est pas membre de la zone euro. Tout est dit là.
Et qui dépense énormément pour son adhésion à l'OTAN. Alors que là aussi, c'est un pays qui a un revenu par tête d'habitant qui est minime, qui met à risque l'équilibre général de sa population, parce qu'elle a des ambitions qui ne sont pas les siennes.
Oui, parce que tout le monde veut entrer aussi dans l'OTAN, bien sûr, l'Union européenne et l'OTAN. Voilà, la chèvre et le chou. Le plus stable, ça serait quoi? La Serbie?
Alors, aujourd'hui, paradoxalement, oui, sans doute, c'est sans doute la Serbie qui est le plus stable. Il faut que la Serbie fasse attention parce que les appétits sont nombreux dans cette zone des Balkans. C'est-à-dire que vous avez évidemment ces petits pays, ces six pays qui sont les confettis de l'ex-Yougoslavie. Et puis, des appétits énormes, parce que les Balkans, c'est la route entre l'Asie et l'Europe. Les Chinois sont très présents avec la nouvelle route de la soie. Les Américains sont toujours là. Les Turcs aussi font un retour en force et investissent énormément. Donc, c'est très, très risqué pour ces gouvernements.
C'est aussi la route des gazoducs. Mais oui. Par rapport à tout cela, bon, ces pays qui demandent leur entrée, entre guillemets...
Ça rentre beaucoup dans la réflexion qui est en cours à Bruxelles. La date qui est donnée pour l'entrée de la Serbie, c'est 2025. Mais c'est en pointillé, évidemment, parce qu'ils se disent, voilà, ces pays, on n'a pas donné les institutions nécessaires, on n'a pas donné les moyens nécessaires pour qu'ils adoptent les mêmes modèles que les nôtres. Donc aujourd'hui, c'est un problème à l'intérieur. Est-ce qu'ils veulent rajouter de l'instabilité au sein de l'Union européenne qui est déjà ébranlée par le Brexit?
Donc, on peut dire que tous les États des Balkans qui demandent leur entrée dans l'Union aujourd'hui feraient peut-être bien que Bruxelles revoie sa copie.
Sans doute. Mais alors, sur quel agenda? C'est ça ce qui va être très difficile à déterminer.
En somme, Hélène, le doute subsiste.
Merci, José Manuel Lamarque. À demain pour le journal ultramarin cette fois.